On est en train de se craquer, Hélène et moi. On parle du centre de foire.
C'est un bien grand mot.
On parle de l'Expo Sherbrooke. Non, mais quand même, tu sais, je veux dire, on revient un peu sur l'idée de Pierre Tremblay, qui est pas folle à la base.
Moi, je trouve que c'est une excellente idée.
Ouais. Pas folle à la base. Ouais. On verra la faisabilité de tout ça. C'est toujours dans le comment, là.
Ben, il va falloir trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas avoir un éléphant blanc comme ça qui, à mes yeux, à moi, puis c'est un petit peu de ça qu'on parlait,
ben
je
n'étais
pas sûr. Moi, personnellement, je n'étais pas en faveur de l'installation du centre de foire à l'endroit où il est actuellement. Je préconisais davantage l'exploitation du patrimoine bâti, notamment dans le secteur de Florimont.
Expo Sherbrooke, le problème, il est mal situé, d'accord, mais tu sais, bâtisse pour bâtisse, pas mal 4-30 sous pour une pièce.
Non, mais
là.
Au moins, tu avais quelque chose de déjà construit.
Aussi.
Mais, puis là, on disait, le plateau Saint-Joseph, on va le développer, sauf que tu n'as pas les infrastructures autour pour en faire un endroit agréable pour tenir un congrès. En tout cas, c'est mon avis. Puis, en même temps, tu ne veux pas non plus développer à l'extérieur de ce que j'appelle les périmètres traditionnels de la ville, parce que là, tu vas nuire à ton centre-ville puis à tous les restaurants qui sont déjà existants. Ce n'est pas ça que tu veux. Quand tu attires du monde, tu veux qu'ils viennent chez vous à l'intérieur de la ville, pas sur le plateau Saint-Joseph puis qu'ils restent.
Pas à peu près sur l'autoroute.
Mais c'est ça.
Ah, c'est ça quand même.
On a cette fichue tendance-là, nous autres, de faire des autoroutes autour de la ville pour dire aux touristes ou aux visiteurs, rentrez donc pas dans la ville, restez à l'extérieur.
Venez voir Sherbrooke, vous allez voir comment c'est beau.
C'est beau.
C'est beau le plateau Saint-Joseph.
C'est des grands stationnements. Mais en parlant de...
non, mais c'est vrai, c'est pas là que tu découvres une ville.
Mais non, effectivement. Mais en parlant de stationnement puis du centre de foire comme tel, quand je vois le taux d'occupation à 200 jours par année, moins 50, parce que c'était la réservation du stationnement pour une activité gouvernementale. Fait que tu fais même pas la moitié de ton temps. T'es même pas utilisé la moitié de ton temps. Fait que c'est normal au coût engendré, au coût d'opération du centre de foire, qu'on essaie de voir s'ils peuvent
le maximiser.
Pas.
Ben oui.
Donc, je trouve que c'est une excellente idée parce que c'est des locaux qui sont relativement neufs, pas nécessairement très beau, surtout de l'extérieur, mais ils sont neufs. Alors, ils peuvent avoir une utilité plus communautaire, je dirais, et dans ce cas-ci, pouvoir être utilisés par des groupes sportifs.
Autre dossier, Hélène, on parle de celui sur la Côte-Nord avec ce projet d'éolienne d'Hydro-Québec en partenariat avec les Inuits. Faut refaire le temps un peu, là, la semaine dernière, l'équipe du Journal de Montréal, leur équipe d'enquête, tombe sur une lettre du dirigeant Éric Martel qui dit « Moi, je ne vais pas là. Je ne suis pas convaincu que c'est rentable. » Là, par la suite... Le ton muselé, semble-t-il que oui, parce qu'il n'a pas donné beaucoup d'entrevues.
Non, il est muselé.
Puis le gouvernement ne veut rien savoir non plus de reculer dans ce projet-là.
C'est vraiment politique, le projet en question.
Oh oui, tout à fait.
Parce que Hydro-Québec, actuellement, a des surplus. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils avaient prévu en vendre en Ontario puis aux États-Unis, mais là, les liens ne sont pas faits encore. Donc, ils se retrouvent avec des surplus, puis...
Pas juste les liens ne sont pas faits. C'est pas garanti qu'ils vont se faire.
Mais non, tout à fait. Absolument, parce qu'on avait prévu en faire davantage justement pour les vendre, puis là, on se retrouve avec. Puis ce que Éric Martel, le directeur général d'Hydro, disait, il disait, écoutez, non seulement on a des surplus, mais au kilowattheure, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus onéreux de faire de l'électricité avec des éoliennes que de façon traditionnelle. Alors, ce projet-là, financièrement, pour nous, ne nous apparaît pas du tout lucratif ou intéressant. Mais, puis le président du conseil d'administration, Michael Penner, c'est un proche des libéraux depuis fort longtemps. Il vient d'être renouvelé encore jusqu'à 2023. C'est un gars qui prend énormément de place. Tu sais, des fois, un président de conseil d'administration, quand il veut faire la job à la place du DG, ça ne donne pas nécessairement toujours des bons résultats. Mais dans ce cas-ci, lui, il est là pour faire bien paraître le gouvernement en place. Et ils insistent pour que le projet Apuyat avec les Inuits fonctionne. Mais c'est un non-sens. Qu'est-ce que tu fais à un moment donné quand tu te retrouves avec des surplus? Tu essaies de ne pas en faire d'autres. Mais l'autre raison que je me dis, c'est qu'à partir du moment où Hydro-Québec dit on ne sait plus quoi faire de nos surplus, c'est le coût de l'électricité pour les Québécois.
Tout à fait.
C'est plutôt que dire on va mettre de la poudre aux yeux, puis encore dépenser dans des projets qui, oui, politiquement, parce qu'on est dans un secteur qui, ça pourrait être bon sur le moment pour le gouvernement, pour le Parti libéral. Mais pour le reste, c'est pas bon pour personne.
Non, exact. Puis même là, on a été un petit peu difficile sur les projets, tu te rappelles, puis je suis pas en train de dire que c'est l'avenir nécessairement, mais tu sais, les Bitfarm et les Bitcoins de ce monde, on a mis un gros frein là-dessus, puis on sait pas nécessairement quoi faire avec nos surplus. C'est un peu particulier. Moi, ce qui me chicote là-dedans, c'est le fait qu'Éric Martel, je me dis, on a vanté ses mérites, on a dit bon gestionnaire, c'est un gars qui a fait ses preuves. Fais donc confiance à ton gestionnaire. Tu l'as mis en place, là?
Mais c'est ça, mais là, on lui a dit, tu ne parles plus de ce dossier-là. Puis, tu sais, une chose est sûre, l'avenir d'Éric Martel, si les libéraux étaient réélus...
Je pense qu'il n'y a plus de job, d'après moi.
À mon avis.
Sa meilleure option est celle de François Legault, selon moi.
Il l'a appuyé, d'ailleurs, sur ce projet-là.
Oh, oui.
T'sais, pis, mais c'est dommage que l'argent des Québécois, parce que c'est de ça qu'on parle, le Hydro-Québec génère énormément d'argent.
Ben, c'est une vache à lait.
Ben, absolument. Oh, oui. Mais c'est dommage que l'argent des Québécois ne pèse moins lourd que de l'opportunisme politique.
Ouais,
quand dans ce cas-ci, c'est exactement
ça. C'est ce qui se passe. On vient de parler de François Legault qui appuie Éric Martel et est contre le projet des éoliennes sur la Côte-Nord. Mais il y a quand même plusieurs...
Je ne veux pas dire qu'il ne se fera pas même si François Legault est élu.
Ah,
là.
Exact.
On sait jamais...
C'est très bien dit, ouais. Exact. Il y a eu des critiques dernièrement, beaucoup sur les réseaux sociaux, pour le manque de bilinguisme de François Legault. Et c'est un columniste dans le Journal de Montréal ce matin, Mathieu Bocoté, qui se pose la question, en as-tu besoin d'être bilingue pour diriger le Québec? On se rappelle Pauline Marois. Te rappelles-tu?
Oui,
écoute, Pauline s'était fait varloper, ridiculiser ad vitam aeternam sur son niveau de bilinguisme. Mmh. Et puis là, on a François Legault qui est... On n'est pas beaucoup plus loin, là.
Ben, quand même un peu. Est-ce que c'est nécessaire? Je dirais, si on veut avoir une place sur la scène internationale, comme on le prétend, à mon avis, la réponse est oui. Est-ce que ça permet aussi au premier ministre, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que François Legault essaye actuellement de flirter avec la population
anglophone.
Oui, tout à fait. C'est difficile, c'est plus difficile de le faire quand tu n'es pas capable de communiquer dans leur langue. Tu sais, moi, je regarde, par exemple, ce qui se passait en Ontario avec... Kathleen Wynne, qui parlait français, puis je trouvais ça admirable, était capable de parler à sa minorité francophone, ce qui n'est pas le cas de Doug Ford.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est préférable qu'un premier ministre parle anglais? Oui. Mais pas parce qu'il est premier ministre, parce que c'est tellement pratique de pouvoir s'exprimer dans deux, trois, puis quatre langues, puis c'est une question d'exemplarité aussi.
Alors, on devrait, par automatisme, obliger un bon niveau de bilinguisme au
premier ministre? On devrait souhaiter qu'il soit intéressé à apprendre une autre langue. Je vais dire ça comme ça. On ne peut pas le forcer parce qu'il peut bien y avoir d'autres qualités. Puis, il y a encore le temps de l'apprendre. Il ne faut pas se le cacher. Mais ça nous indique quand même une forme d'ouverture lorsque tu le fais et un intérêt aussi face à l'autre.
Face à l'autre. Hélène Gravel, merci beaucoup. On te retrouve ce midi.
Merci, Steve. Oui, avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Merci, Hélène.
Merci.